Santé.
Qui commence à l'instant sur Canal M, Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. Avec un grand plaisir. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle, et ce, en deuxième partie, d'un nouveau service de proximité pour briser l'isolement des personnes aînées du côté de la Haute-Gaspésie avec Martine Beaupré du Centre d'action bénévole des Chic-Chocs. Aussi, Gilles Lefebvre, conseiller en surdicécité à l'Institut Raymond de Hoan, présente un guide pratique tout chaud, tout nouveau, qui est destiné aux parents et qui s'intitule « Vivre au quotidien avec un enfant sourd aveugle ». On voyage un petit peu aujourd'hui à travers la province parce qu'on joindra Vincent Godin du côté de Trois-Rivières. Cette fois, Vincent, il a 20 ans. C'est un nageur parce que tous les jours, Vincent plonge dans la piscine pour y faire des longueurs. Et il vit aussi avec une dysphasie. Il sera là pour nous expliquer comment il arrive à surmonter les limites imposées par ce trouble du langage et ce, par le sport. Et puis, dans quelques instants, Marc-André Plante, lui, directeur du Carrefour Action Famille, présente des initiatives municipales pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie. Mais juste avant, on aura un petit pont musical et c'est Anne-Laure Janson qui est là, toute prête à nous livrer cette revue de presse santé de la semaine. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Marianne.
Vous allez bien?
Oui, ça va, merci.
On commence avec un article signé José Blanchette dans Le Devoir où elle y dresse un portrait de cette journaliste et auteure, Lucie Pagé, qui sort un livre, je pense, aujourd'hui, « Sexe, pote et politique ». Et c'est assez intéressant parce que Lucie Pagé parle des vertus thérapeutiques du pote et elle livre un témoignage parce qu'elle, elle le vit pour vrai, ses vertus.
C'est ça. José Blanchette, comme à son habitude, nous livre un article assez cinglant, une chroniqueuse originale, toujours dans ses sujets et ses traitements. Et là, elle nous raconte l'histoire de la journaliste et écrivaine Lucie Pagé, qui a été affligée d'une forme extrêmement cruelle de ménopause depuis septembre 2012. La jeune quinca s'est affligée tous les traitements pour venir à bout de ses symptômes. Et donc, elle a essayé les hormones. Son oncologue lui a dit d'arrêter à cause de kystes aux ovaires. Elle s'est tournée vers l'acupuncture, les herbes chinoises, l'homéopathie, la médecine ayurvédique, rien ne fonctionnait. Aux prises avec de graves troubles d'insomnie, des nausées, des vomissements, des bouffées de chaleur toutes les 20 minutes, faisant des chutes, pleurant sans arrêt, Lucie a pris deux sortes d'anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères jusqu'en décembre 2014, le jour des 60 ans de son mari. Et là, une amie apporte des muffins aux potes. Lucie en prend un, sans trop d'arrière-pensée, elle se réveille le lendemain, fraîche comme une rose. Donc, depuis, elle attend avec impatience que cesse l'hypocrisie face à cette plante utilisée depuis des milliers d'années. Elle s'est mise à lire beaucoup sur le sujet, ses réflexes de journaliste ont fait place à l'écrivaine. Et effectivement, aujourd'hui, elle sort ce roman, une satire politique à cheval sur le burlesque et la conscience sociale, sexe, pote et politique. Elle y dénonce notamment le fait que le cannabis thérapeutique ne soit utilisé au Canada qu'en dernier recours, en palliatif, mais jamais en mode curatif. On n'en a que pour le pote récréatif et on laisse tomber le curatif à cause notamment du lobby pharmaceutique. 83% des gens qui se soignent au cannabis abandonnent toute médication, dit-elle.
Ouais. Et Lucie Pagé, c'est une dame qui voyage énormément, donc elle est amenée à voir l'usage de la marijuana dans d'autres pays et de voir qu'il y a des gens qui l'utilisent aussi à très bon escient et que ça a des résultats en Afrique du Sud, notamment.
Tout à fait, tout à fait. Son conjoint, un homme politique assez connu là-bas, Jay Naidoo, qui, donc avec lui, elle passe la moitié de son temps en Afrique du Sud. Effectivement, elle peut observer aussi que malheureusement, c'est interdit dans de nombreux pays également.
Ouais. On poursuit maintenant Marie-Julie Allard, une jeune doctorante du côté de McGill qui a une sœur qui a un syndrome assez particulier et qui en parallèle travaille pour autour de l'autisme.
Oui, une jeune chercheuse donc de 25 ans à qui on a lancé une invitation pour C'est bon pour la santé parce que ses recherches sont passionnantes. Elle travaille en doctorat à McGill sur les facteurs de risque de l'autisme pendant la grossesse, Son inspiration vient en effet de son milieu familial. Sa sœur est atteinte d'une maladie rare, le syndrome du cri du chat. Donc, même si ses principaux intérêts portent sur l'autisme, elle reste à l'affût de l'évolution scientifique de la maladie de sa sœur, aujourd'hui âgée de 21 ans. Son plus grand rêve, donc, c'est de continuer à faire de la recherche, d'être capable de vulgariser aussi, parce qu'elle pense que c'est important que la population sache que les recherches peuvent aussi avoir des retombées. Son objectif à long terme serait de diminuer l'incidence de l'autisme et sa prévalence.
Oui, on se croise les doigts pour la recevoir, Marie-Julie Allard. Peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines, hein? Quelque chose comme ça, alors. Maintenant, d'ici 10 à 15 ans, il pourrait être possible de détecter le TDAH, et ce, grâce à des chercheurs du Michigan.
Une étude américaine qui, effectivement, montre qu'il peut être possible de détecter des troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez les enfants simplement lors d'une visite chez le médecin de famille. C'est ce que des chercheurs américains ont en fait mis au point. Pour l'instant, il faut adapter les appareils. Le but actuel est de mettre au point une courbe de croissance de certaines régions du cerveau qui pourrait être établi par le médecin de famille avec un appareil électroencéphalogramme portatif et peu coûteux. Actuellement, ils viennent de faire la preuve qu'en laboratoire avec des appareils plus sophistiqués, ils peuvent détecter 80% des cas de TDAH à l'aide de la neuroimagerie. Il faudra maintenant voir comment on peut transcrire ces résultats sur des appareils plus petits qui pourraient alors prendre place chez le médecin de famille. Ça serait un outil supplémentaire pour appuyer le jugement clinique du médecin, comme l'indice de masse corporelle, et ça pourrait peut-être permettre de prévenir et de venir, d'intervenir plus tôt.
Excellente nouvelle. Et en terminant, une pièce de théâtre qui prendra l'affiche bientôt du côté du Théâtre des Écuries, c'est dans Villeray-Parc Extension. Ça s'intitule Regard, une jeune auteure de la France.
Oui, tout à fait. Regard, un monologue sur l'enfance qui va passer 3 jours à Montréal, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, au Théâtre aux Écuries, un solo autobiographique de la créatrice Séverine Fontaine, dont le texte avait été présenté en 2014 au festival Jamais lu. Alors ce spectacle mêle texte, images animées, lumière et chant, se situe dans le monde de l'enfance et de l'adolescence. Au fil des tableaux, nous suivons le monologue intime de l'enfant, de sa naissance au monde, jusqu'à son éveil dans sa vie d'adulte.
Mais est-ce que ça s'adresse aux enfants ou plutôt aux adultes qui ont gardé un cœur d'enfant?
Je pense que ça s'adresse plus aux adultes, effectivement. Le 13, notamment, sera suivi d'une rencontre débat co-organisée avec l'IRIS en partenariat avec la revue Liberté autour du thème « Au risque d'être soi ». Demain, Regard sera à Rouyn-Noranda, à l'Agora des Arts, à Rouyn-Noranda, pardon, et plus tard en tournée au Saguenay et au Bic.
Donc, ça se promène un petit peu partout en province, cette pièce de théâtre signée Séverine Fontaine. Anne-Laure Janson, merci beaucoup pour cette revue de presse.
De rien.
Marc-André Plante, bonjour.
Bonjour.
Directeur du Carrefour Action Famille, là pour nous parler d'initiatives municipales qui tentent de favoriser l'adoption de saines habitudes de vie auprès des familles, mais auprès de toute la population. Tout d'abord, Marc-André Plante, vous qui travaillez auprès d'élus, auprès de conseillers municipaux, de quelle façon ces personnes en place, ces personnes qui ont un pouvoir décisionnel, ont l'intérêt d'adopter des politiques de saines habitudes de vie?
Bien, d'abord, les élus municipaux, le monde municipal, les décideurs municipaux sont, comme tous et chacun, des intervenants en ce moment qui s'interrogent justement sur quelle manière on va s'assurer que nos jeunes, que l'ensemble de la population, que les gens vont grandir, se développer en santé. Et comme vous le savez, l'environnement physique, l'environnement influence grandement l'adoption de saines habitudes de vie au quotidien par les enfants, par les jeunes, les familles, les aînés. Mmh. Et donc, les élus, depuis bon nombre d'années, sont de plus en plus sensibilisés à l'importance d'adapter leur offre de services, les infrastructures, mais aussi l'environnement pour favoriser à la fois l'activité physique, mais aussi la saine alimentation sur leur territoire.
Donc, il y a eu une compréhension ou du moins une observation que les municipalités avaient un rôle réel à jouer dans l'adoption de saines habitudes de vie auprès des familles, entre autres.
Effectivement, je vous dirais que le Carrefour Action municipale et famille, depuis environ 5 ans, a pris un virage pour soutenir l'ensemble des municipalités québécoises qui souhaitaient intégrer les saines habitudes de vie dans le cadre de leur politique familiale municipale. Actuellement, il y a près de 290 municipalités réparties sur le territoire québécois qui se sont dotées de stratégies, de mesures et d'actions en faveur des saines habitudes de vie. Donc, dire qu'il y a un mouvement, il y a une compréhension, et il y a de plus en plus de municipalités qui sont mobilisées autour de cet enjeu.
Oui. Qu'est-ce qui amène soudainement cette responsabilité-là, ce regard-là? Est-ce qu'il y a eu des constats de fait pour dire, OK, on doit s'investir davantage et trouver des solutions pour favoriser ces habitudes?
Bien, je pense que les grandes enquêtes, particulièrement réalisées par la santé publique sur les données, par exemple, l'obésité chez les jeunes, le diabète de type 2 qui arrive de plus en plus tôt dans la vie, donc même affecte les enfants avant l'âge de 12 ans. Mais on réalise finalement que l'obésité devient de plus en plus un enjeu de politique publique. Et l'ensemble des institutions, organisations au Québec et dans nos sociétés deviennent nécessairement mobilisées à soutenir et ou atténuer les effets, les impacts là, de cette réalité. Alors, les municipalités, tout comme les écoles, les commissions scolaires, sont actuellement dans un processus qui est très global, mais de poursuivre des efforts justement pour mettre en place des environnements qui sont favorables à la saine alimentation, puis aussi à des activités, donc à un environnement qui est physiquement actif et accessible pour tous.
Bon, on le sait, ce genre d'action de façon concrète, ça passe par des réglementations, par des aménagements. Quel est le processus, Marc-André, pour s'y rendre? On commence par quoi?
Bien, je pense que la première étape, c'est vraiment de faire un bon diagnostic de son territoire. Je pense qu'il y a de plus en plus d'outils, notamment avec des collègues chercheurs de l'Université de Montréal. Par exemple, on a même développé un indice de marchabilité. Hein? Mmh. Vous savez qu'on commence de plus en plus à voir est-ce que à proximité des quartiers des jeunes familles, à combien de pieds sont situés les parcs? Est-ce que c'est possible, par exemple, de se déplacer à pied, à vélo pour aller à l'école pour les enfants? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des commerces de proximité qui sont planifiés, qui sont sécuritaires, où les déplacements actifs sont permis? Alors, je pense que c'est toute cette réflexion-là qu'on voit en ce moment dans le milieu municipal et qui amène une panoplie, une panoplie de mesures excessivement intéressantes, notamment pour valoriser le transport actif, des infrastructures qui sont accessibles, notamment le jeu libre, là, qui est un volet en développement là, dans nos municipalités actuellement au Québec.
Et parfois, ça passe par développer, par aménager, comme vous venez de le mentionner, et parfois de retirer ou d'enlever, si on pense à des machines distributrices qui pourraient donner des friandises un peu trop sucrées, boissons gazeuses, ou encore, on a parlé beaucoup de malbouffe dans les arénas il y a quelques années. Ça peut passer par ce genre d'initiative-là aussi.
Bien, effectivement, c'est un élément. Je vous dirais que la question de la malbouffe, que ce soit dans les arénas, pense que c'est important d'envoyer un message là que il faut peut-être pas y aller de façon drastique. Je pense que ce qu'on voit de plus en plus, les succès qu'on voit dans les installations municipales, comme les arénas, les centres sportifs, etc., on voit de plus en plus des menus diversifiés, une offre alimentaire saine qui est donc plus intéressante, qui est économiquement aussi plus intéressante. On va valoriser des choix et des menus qui sont à moindre prix, donc les choix santé vont être plus intéressants. On va voir aussi dans des événements municipaux, fêtes nationales, etc., de plus en plus, on va introduire des fruits, fruits et légumes. Mm-hmm. Donc, vraiment, les municipalités contribuent justement à ce réflexe naturel là, de manger sain. Et ça, je pense que il faut y aller de façon progressive et surtout d'y accompagner ce que j'appelle de la sensibilisation, parce que le changement ne va pas se faire du jour au lendemain là, dans les habitudes de vie là, de la population.
Et c'est intéressant ce que vous dites, Marc-André Plante, parce que le changement ne passe pas par la contrainte, mais peut-être plus par le choix, comme vous tentez de l'expliquer. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. On a parlé de succès. Quels sont les grands succès que vous avez peut-être envie de nous faire connaître dans les différentes municipalités ici au Québec?
Ben moi, j'aime beaucoup une mesure qu'on entend de plus en plus parler, puis beaucoup de villes qui vont reprendre cette idée. C'est ce qu'on appelle les zones de jeux libres dans la rue. Vous savez, bon nombre de municipalités ont, avec les années, développé des réglementations, souvent soutenues par Transport Québec, où il n'est pas permis pour les enfants, par exemple, de jouer dans la rue, que ce soit au hockey, soccer, peu importe le type de sport, ne serait-ce que de s'amuser. Et ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que ben, le jeu libre, c'est et l'espace tel que la rue, c'est un espace qui permet, par exemple, aux jeunes familles donc de se côtoyer dans un quartier. Mm-hmm. Les enfants se font des amis, les parents vont côtoyer les voisins. Et cette réglementation-là amenait bien des situations malheureuses dans mm-hmm. bien des municipalités où on se retrouvait à donner des contraventions à des enfants qui voulaient jouer. Alors, on était dans un contre-message. Alors, on a une ville à Belœil qui a développé ce qu'on appelle des zones spécifiques de jeux libres dans la rue avec une signalisation appropriée, une réglementation et une sensibilisation auprès aussi des conducteurs qui circulent dans la rue. Mm-hmm. Attendez-moi là, tout de suite, là, soyons conscients, demain matin, il n'y aura pas de zone comme ça là, sur la rue Sherbrooke à Montréal. Mais je pense qu'on choisit des rues ciblées souvent, donc des zones plutôt familiales, où la circulation, la vitesse est plutôt à 30 ou 40 km. Donc, on s'assure vraiment d'être dans un environnement qui est optimal pour les jeunes qui veulent jouer.
Et le réseau de contact, ça crée un filet de sécurité. En terminant, et ce, rapidement, Marc-André Plante, si un groupe de citoyens, une famille, des résidents d'un quartier a une bonne idée, comment on fait pour entrer en contact avec notre élu, notre conseiller municipal et de lui transmettre cette idée qu'on a pour le mieux-être de nos proches?
Bien, aussi simple, écoutez, dans la majorité de nos municipalités, une fois par mois, deux fois par mois, il y a des séances du conseil et les citoyens ont l'opportunité d'aller s'exprimer en début de séance du conseil. Mmh. C'est une occasion d'aller exprimer une bonne idée. Sinon, dans chaque municipalité, il y a un élu responsable des questions familiales. C'est un élu qui a pour responsabilité de porter les enjeux de la famille auprès des membres du conseil municipal. Alors, les gens peuvent communiquer avec nous au Carrefour Action municipale et famille, mais il y a toujours un élu désigné représentant des familles au sein du conseil municipal et cette personne-là porte ses idées et ce message provenant de la communauté.
carrefourmunicipal.qc.ca, Marc-André Plante, directeur du Carrefour Action Famille. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci, au revoir. What to do with you? What to think I do to me if I just look at you? What to do with you?
Vincent Godet, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Il fait beau du côté de Trois-Rivières aujourd'hui?
Oui, certainement.
Comme à Montréal, on est bien chanceux. Vincent, vous êtes allé nager aujourd'hui comme tous les jours?
Oui, tout à fait. C'est dès le matin, je nage, je saute dans la piscine à partir de 6 heures le matin. Donc, moi, ça me permet de commencer ma journée et de canaliser mon énergie parce que j'en ai beaucoup, je bouge beaucoup. Donc, après mon entraînement le matin, ça me permet d'avoir une meilleure journée parce que ma concentration est mieux par la suite.
Vincent, vous vivez avec la dysphasie, qui est un trouble de la compréhension, un trouble du langage. Est-ce que, vous parlez de troubles de concentration, d'un trop-plein d'énergie, ce sont des caractéristiques de la dysphasie chez vous?
Oui, en fait, juste peut-être préciser, la dysphasie, c'est un trouble primaire du langage qui affecte principalement le langage, l'élocution et également l'apprentissage, tout au niveau de la compréhension, l'apprentissage et la parole. Moi, de mon côté, ça affecte beaucoup plus l'apprentissage et la concentration que la parole et la façon de m'exprimer. Donc, pour certaines personnes, la dysphasie vit. Ils vont vivre davantage des problématiques au niveau de leur parole que leurs apprentissages. Donc, chaque personne est différente d'une personne à l'autre.
Dans votre cas, c'est du côté de l'apprentissage. Donc, le parcours scolaire, ça s'est passé comment pour vous, Vincent?
Mon parcours scolaire, c'est une bonne question. Ça a été parsemé d'embûches parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de mon apprentissage vu que ma dysphasie se reflétait davantage sur l'apprentissage. J'ai pas eu un cheminement régulier comme une personne qui n'a pas la dysphasie. Mais j'ai appris à contourner ça, à trouver des passions autres que l'école qui m'a permis de réaliser mon secondaire, d'avoir un diplôme. Donc, j'en suis fier. Mais effectivement, j'ai eu des périodes qui ont été difficiles au niveau des mathématiques, la matière, le français également. Ça a été difficile.
Et ce qui vous a permis de surmonter ces obstacles et peut-être ces limites imposées par la dysphasie, c'est la natation, c'est le sport. Qui d'abord, Vincent, vous a mis sur la piste du sport en disant peut-être que ça pourrait te donner un coup de main?
En fait, c'est mes parents. Mes parents m'ont inscrit très, très, très jeune dans un club de natation de ma région. Faut mentionner aussi que je souffre d'hyperactivité, le TDAH. Donc, mes parents n'avaient pas le choix de m'inscrire dans des sports. J'ai fait plusieurs sports quand j'étais jeune. Et la natation, ça a été bénéfique pour moi d'être en présence, d'être en contact avec l'eau, d'être seul, d'avoir un objectif puis de le réaliser. Et ça a toujours suivi dans mon adolescence. J'ai fait du sport-études, natation au secondaire qui m'a permis de vraiment sauver mon adolescence et de permettre d'avoir un alignement et d'être bon dans quelque chose.
Ouais. On peut dire que vous êtes courageux et plutôt travaillant, Vincent. Ça aussi, ça vous caractérise parce que en 2015, vous avez traversé à la nage le golfe du Saint-Laurent, également 86 kilomètres de nage entre la Nouvelle-Écosse et les îles de la Madeleine. Pourquoi, Vincent? Il y avait un message derrière ça.
Oui, il y avait plus qu'un message. D'abord, pourquoi? C'était un accomplissement que je voulais faire, je voulais réaliser, me dépasser physiquement, mais également mentalement. Au-delà de l'exploit sportif, il y avait une mission qui m'a été donnée, c'est de faire connaître la dysphasie, de porter une image envers la société. C'est quoi la problématique de la dysphasie? Comment qu'on peut mieux aider ces gens-là? Et c'était mon principal cheval de bataille, c'était ça, c'était de mettre la dysphasie dans les médias et de permettre d'ouvrir des possibilités pour ces gens-là. C'était principalement ça. Mon message quand j'ai fait mes 86 kilomètres.
Oui. Et peut-être un message aussi pour des jeunes qui n'auraient pas eu votre chance et la chance d'être entourés par des parents bienveillants, de dire que c'est possible de réussir, c'est possible de se réaliser, de réaliser son plein potentiel.
Tout à fait. Moi, qu'est-ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, vous savez, madame, c'est je souhaite aux dysphasiques de s'accomplir dans la vie, d'être épanoui et d'aimer qu'est-ce qu'ils font et d'être heureux. C'est tout simplement ces choses-là. Qu'est-ce que je souhaite beaucoup, c'est de s'accomplir. Parce que vous savez, ces gens-là, la dysphasie, les dysphasiques ont une qualité extraordinaires. Mm-hmm. Ils ont la persévérance, ils ont la détermination de réaliser quelque chose, d'attraper quelque chose, de faire un but et de le mettre en exécution. C'est exactement ça mon message, c'est de s'accomplir, de trouver quelque chose qui les aime. Et non nécessairement la société qui les impose parce qu'ils sont dissuasiques.
Oui. En terminant, Vincent, les décideurs, je pense aux gens qui travaillent du côté du ministère de l'Éducation, sont-ils suffisamment sensibilisés? Est-ce que les dysphasiques, jeunes ou moins jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, ont toutes les ressources possibles pour réaliser ce plein potentiel dont on parle?
Non, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail au niveau de la classe politique. Non, pas nécessairement. Vous savez, la dysphasie au niveau gouvernemental, il n'y a pas assez de ressources qu'on devrait avoir au niveau scolaire, au niveau du primaire puis du secondaire. On devrait davantage, par exemple, avoir plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues, mm-hmm. plus de personnes qui vont être à l'écoute des besoins pour ces gens-là au niveau de la dysphasie, parce que c'est un trouble qui peut affecter tout le niveau d'apprentissage. Donc, si les ressources ne sont pas suffisamment, on ne peut pas donner pour ces gens-là. Donc, ces gens-là arrivent à 18, 19 ans, 20 ans, et c'est plus difficile de se trouver un travail et d'avoir une autonomie, de quitter chez leurs parents, d'avoir une vie normale. Donc, si on peut avoir plus de ressources et qu'on peut mieux comprendre, mieux diagnostiquer c'est quoi la dysphasie, on peut porter davantage des services sont vraiment mieux pour ces gens-là.
Oui. En terminant, il reste 30 secondes. Vincent, vous êtes au cégep, vous, en ce moment, à Trois-Rivières?
Non, je ne suis pas au cégep, okay. par contre, mais je m'apprête à aller en sciences politiques à l'université à tant qu'auditeur libre, oui.
Voilà. Alors, je vous souhaite, Vincent Godin, un grand succès dans vos études. Vous êtes vraiment une grande source d'inspiration. Vincent Godin, 20 ans, il vit avec la dysphasie, ménage, et vous êtes un beau portrait, très inspirant, Vincent. Merci.
Bien, merci beaucoup de votre invitation. Merci, bye-bye.
Marianne Paquette avec vous pour cette deuxième partie de l'émission C'est bon pour la santé. Vous êtes toujours sur Canal M. Tout à l'heure, on se dirige du côté de la Gaspésie. On parlera avec Martine Beaupré. Elle est agente de coordination pour les réseaux de proximité aux personnes aînées au Centre d'action bénévole des Chic-Chocs. Et pour nous parler d'un nouveau service qui vise à briser l'isolement du côté de ces personnes aînées. Mais pour le moment, je discute avec Gilles Lefebvre. Il est conseiller en surdicécité, programme surdicécité du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre Sud de l'île de Montréal, ou si on veut faire un peu plus rapide, c'est l'Institut Raymond Dewoire. Gilles Lefebvre, bonjour.
Bonjour, madame.
Donc, un nouveau guide pratique s'est sorti la semaine dernière. Ça s'appelle « Vivre au quotidien avec un enfant sourd et aveugle mm-hmm. ». Premièrement, Monsieur Lefebvre, je me disais, bon, ce guide-là, il est très bien fait parce qu'il est parsemé de témoignages de parents qui vivent cette réalité-là. Et d'entrée de jeu, on se dit, recevoir un diagnostic, savoir que notre enfant vit non seulement avec un problème, une déficience auditive, mais également visuelle, c'est une charge d'émotions immense. Comment on peut expliquer les causes de la surdicécité?
Ah, mon Dieu! Il y a plus de 150 causes à la surdicécité. Mais je pense que d'abord, il faudrait parler des sortes de surdicécité. Mm-hmm. Il y a la surdicécité acquise. Alors, il s'agit de personnes qui, au cours de leur vie, deviennent sourdes aveugles. Okay? Alors, ces gens-là ont atteint un certain niveau d'autonomie, une connaissance de leur environnement, ils savent qu'on peut communiquer, puis ils vont devoir s'adapter à leurs nouvelles conditions. Parce que les personnes sourdes aveugles, on parle de surdicécité congénitale, là c'est tout à fait autre chose. Parce qu'un enfant qui naît sourd aveugle, il ne pourra pas découvrir son environnement par lui-même, comme un enfant entendant, voyant, va être capable de le faire. Alors, tout va être montré à ces enfants-là.
Oui.
Alors, pour les parents, ça demande beaucoup.
Oui, surtout, et comme c'est le cas d'un couple de parents lorsque c'est le premier enfant. On apprend à être parent et on apprend à être parent d'un enfant qui vit avec une déficience et auditive et visuelle. Ça peut faire beaucoup au départ. Ce sont des enfants, comme vous le mentionnez, Gilles Lefebvre, qui ont du mal à entrer en contact ou à découvrir leur environnement. Donc, ça crée des caractéristiques assez particulières chez ces enfants.
Bien sûr, faut dire au départ que les débuts de vie de ces enfants-là, ça commence par de nombreuses hospitalisations et puis de la souffrance physique, hein, dès la période là, néonatale. Mmh. Et leur perception du monde est morcelée. C'est difficile pour ces enfants-là de donner un sens à ce qui se passe autour d'eux. La plupart des stimuli, à cause là, des nombreuses hospitalisations, puis des traitements médicaux et tout ça, pour ces enfants-là, ce qui est extérieur à leur corps, ça devient comme quelque chose de menaçant et d'agressant.
Ouais.
Alors, ça va demander là, vraiment une approche particulière qui tient compte, entre autres, de ça, pour amener l'enfant à se développer, pour arriver d'abord à créer un lien avec l'enfant et puis l'amener à se développer éventuellement. Mmh.
Parlons-en de ce lien-là. Comment se crée l'attachement d'un parent avec son enfant qui vit avec une surdicécité?
Créer un lien de confiance là, avec un enfant sur-aveugle, c'est sûr que c'est essentiel. Et puis... c'est avec l'approche particulière qu'on va utiliser avec l'enfant sur aveugle qu'éventuellement va se développer ce lien-là. Mmh. Un enfant sur aveugle ne peut pas anticiper ce qui vient. OK? Alors, il ne peut pas anticiper qu'il va être touché, par exemple, mmh. ou qu'on va lui mettre un biberon dans la bouche. Alors, dans notre approche, il va falloir trouver une façon de permettre à l'enfant d'anticiper qu'on entre en contact avec lui. Et c'est par la répétition de cette façon d'agir-là que éventuellement l'enfant va comprendre. Il va comprendre les moyens qu'on utilise pour lui permettre d'anticiper. Et c'est comme ça que le lien de confiance va finir par se développer. Mais ça peut être long.
Ouais. Vous parlez dans ce guide, Gilles Lefebvre, mm-hmm. de coaction. C'est quoi la coaction?
OK. Un enfant qui voit, vite, il va développer là, une capacité d'imitation. Hein? Il va observer ce qui se passe autour de lui, puis il va essayer de faire la même chose. L'enfant sourd aveugle ne peut pas imiter parce que il est limité par sa déficience visuelle. Alors, c'est une approche qui va nous, en agissant avec l'enfant, c'est comme ça qu'on va lui inculquer petit à petit les gestes nécessaires pour toutes les actions là, de la vie quotidienne.
Ouais.
OK? Alors, en gros, la coaction, là, c'est ça.
Mm-hmm. Bon, on a parlé du développement du lien d'attachement. Il y a aussi tout le développement du langage, la communication, comment un parent d'un enfant sourd et aveugle peut y arriver?
C'est une grosse question. C'est qu'il va falloir d'abord, mais comme je vous le disais, là, il faut trouver des moyens de faire anticiper l'enfant, lui faire comprendre, lui annoncer ce qui s'en vient. Et il faut l'installer dans une routine quotidienne.
Mm-hmm.
OK? Et le faire participer activement à cette routine quotidienne-là, justement, entre autres, par la coaction. Alors, en participant activement à sa routine quotidienne, l'enfant va développer une compréhension de ce qui se passe autour de lui et éventuellement, il va reconnaître des objets, il va reconnaître des instants de vie et petit à petit, soit que ce soit en parole ou en geste, en signe ou par l'utilisation d'objets en lien avec la routine quotidienne, mais c'est comme ça que l'enfant va finir par... que sa communication petit à petit peut se développer.
Oui.
Mais ça peut être très long.
Ouais. Vous parlez dans le guide Gilles Lefebvre de routine, comme vous venez de le mentionner. Mm-hmm. Il y a cet exemple très concret de l'heure du bain, par exemple, où avant de plonger l'enfant dans l'eau, ça peut être bien de lui faire respirer l'huile moussante qu'on mettra dans le bain, de lui faire toucher l'eau avant. Donc, il y a vraiment aussi des étapes.
Mm-hmm, mm-hmm. Bien, c'est ça. Si on prend justement cette activité-là, bien, on peut l'annoncer à l'enfant. On peut le lui dire parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant fait de la parole qu'il peut percevoir partiellement. On peut lui faire le signe ou le geste qui correspond à aller prendre son bain aussi, mais on peut lui faire toucher d'abord, par exemple, comme sa débarbouillette.
Ouais.
Alors, peut-être une débarbouillette sur laquelle il y a un petit peu de savon. Alors, il va sentir l'odeur du savon. Puis, en touchant la débarbouillette, après la répétition, hein, après avoir fait ça plusieurs fois avec lui, il va comprendre que, ah, on me fait toucher la débarbouillette qui sent quelque chose. C'est parce qu'on va aller me mettre dans quelque chose où ça va être chaud et tout ça. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Alors, c'est une façon, là, de... comment dire ça?
De sécuriser aussi, j'imagine, l'enfant dans cette routine.
Oui. De lui faire anticiper. Oui. Je reviens souvent à l'anticipation, mais c'est...
C'est un chapitre complet de votre guide,
d'ailleurs. Oui, mais constamment, nous autres, parce qu'on voit bien et qu'on entend bien, on anticipe constamment. Puis c'est ce qui nous permet de fonctionner de façon autonome, puis de se sentir confortable, en sécurité. Mais un enfant qui ne peut pas anticiper, s'il ne trouve pas les moyens pour le faire anticiper, mais il va passer son temps à sursauter. Vous voyez, alors, c'est très important, là, le principe de l'anticipation.
Oui. Depuis tout à l'heure, Gilles Lefebvre, ça fait des années que vous travaillez auprès de ces familles, une quarantaine d'années à peu près, je pense, du côté de Raymond Dewant.
Ça va faire 49 ans.
Oui. Vous en avez vu des familles qui vivent avec un enfant sourd et aveugle. Depuis tout à l'heure, vous parlez de « ça peut être long ». Ça peut être long. Est-ce que le principal besoin de ces familles, c'est la patience? Quel message vous donneriez à ces familles?
Mais je pense que c'est des familles qui ont besoin du soutien d'intervenants, là, qui, eux, connaissent plusieurs enfants sourds et aveugles. Mais le parent, c'est toujours la personne la plus importante pour l'enfant. Et puis, c'est toujours la personne qui connaît le mieux son enfant.
Mm-hmm. Oui. Le guide...
Attendez.
Oui.
Excusez-moi. Mais sauf, comme vous le disiez tantôt, il n'y a pas d'école pour devenir un parent. Hein? C'est à force de côtoyer les enfants qu'on comprend notre rôle de parent. Mais quand on a un enfant sourd aveugle, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, avant de comprendre les impacts de la sourdité sur le développement de notre enfant, ça peut être très déroutant.
Et avant aussi d'apprendre à prendre contact avec cet enfant-là, il est quand même privé, si je peux m'exprimer ainsi, de deux sens quand même assez importants, c'est-à-dire la vue, l'ouïe. Il faut créer ce contact-là, ce lien-là qui est assez privilégié avec notre enfant d'abord.
Oui. Mais c'est comme je vous disais tantôt, là, notre approche, comment entrer en contact avec cet enfant-là, mais c'est en respectant son besoin d'anticipation.
Oui.
Okay? Puis par la répétition des actes de la vie quotidienne, là, mais c'est comme ça qu'on va amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais sauf que, au départ, un parent qui devient parent d'un enfant sourd aveugle, c'est pas des notions qu'ils connaissent. Hein.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que nous, ça fait partie de notre travail de sensibiliser les parents à cette chose-là.
À leur rôle. Vivre au quotidien avec un enfant sourd et aveugle, comment on peut se procurer ou avoir accès à ce guide?
Il est disponible au comptoir à l'Institut Nazareth et Librail à Longueuil.
OK, parfait. Donc, on glissera, nous, de notre côté, ce lien. Gilles Lefebvre, vous êtes conseiller en surdicécité du côté de Raymond Dewant, raymond-dewant.qc.ca. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Mmh.
Bonjour, Martine Beaupré.
Oui, bonjour.
Vous êtes agente de coordination pour les réseaux de proximité aux personnes aînées, et ce pour le Centre d'action bénévole des Chic-Chocs. C'est un projet que vous mijotez depuis longtemps, je pense, ce service de proximité qui vise à briser l'isolement des personnes plus âgées.
Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'implanter ce nouveau service-là découle directement de la démarche MADA qu'il y a eu ici dans notre région. MADA étant municipalité amie des aînés. Mm-hmm. C'est une démarche qui a eu lieu entre 2014 et 2016, une collaboration entre la MRC et le Centre d'action bénévole. Et puis, au courant de cette démarche-là, bon, il y a eu des consultations auprès des aînés, des entrevues auprès des aînés. Il y a eu des discussions avec eux, à savoir, dans le fond, qu'est-ce qui serait l'idéal à mettre en place pour favoriser leur bien-être dans la communauté. Et à travers les discussions qui ont émergé, ben, bon, les aînés ont su identifier un certain nombre de besoins. Et de là, il est ressorti plusieurs constats. Mm-hmm. Dont celui de créer un service de visite d'amitié, de réseau de proximité pour venir répondre à un besoin d'isolement qui est vraiment bien identifié ici en région chez les aînés, problématique qui risque d'accroître dans les années à venir.
Oui. Avez-vous l'impression, Martine Beaupré, que l'isolement ou la solitude des personnes aînées est plus grande en région éloignée?
En fait, oui, effectivement, nous, dans le fond, dans notre région, ce qui démarque du reste du Québec, ce qui fait en sorte que les aînés sont plus enclins à, bon, à vivre une problématique d'isolement, c'est en fait, bon, notre territoire qui est très vaste.
Oui.
Hein, je veux dire, ici, il n'y a pas des épiceries puis des pharmacies à tous les coins de rue.
Mm-hmm.
Il faut marcher un bon petit bout pour se rendre à destination. Donc, les gens, quand ils ont des besoins d'aller chercher leurs médicaments, d'aller faire les emplettes, ils n'ont pas tout à proximité d'eux. Il faut savoir aussi que, bon, 34,7% des 65 ans et plus en Haute-Gaspésie n'ont pas leur permis de conduire. Et puis ici, en Gaspésie, quand tu n'as pas ton permis de conduire, ben t'es à pied, ouais. Puis t'es à pied longtemps. Je veux dire, on n'a pas le système de transport en commun, on n'a pas d'autobus ni le métro. Le service de taxi, ben oui, je peux pas dire qu'il n'en a pas, mais c'est pas quelque chose de très, très, très accessible. Il n'y en a pas partout. Et puis c'est coûteux aussi prendre le taxi. Il faut savoir mm-hmm. que nos aînés, ce ne sont pas les gens les plus fortunés non plus. Donc, il y a ça, en fait, qui fait en sorte qu'on est plus en région, l'isolement ouais. est plus présent. Il y a le fait aussi que, bon, les aînés qui vivent ici, il y en a un bon nombre d'entre eux que leurs enfants sont partis
voilà.
à l'extérieur, qui sont partis pour le travail, donc ils se retrouvent seuls ici. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que moi, il y a des aînés qui sont isolés dans la communauté que j'ai repérés qui, eux, bon, à l'âge de 17-18 ans, sont partis de la Gaspésie pour aller travailler et puis ont fait une cinquantaine d'années de leur vie à Montréal et en milieu plus urbain. Et quand ils décident de revenir en région pour la retraite, une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années plus tard, eh bien...
Le réseau est plus lent, oui.
Oui, en fait, ça l'a changé.
Oui.
Les sources sont plus les mêmes. Les enfants qui ont eu à Montréal et à Québec sont restés là-bas pour le travail. Donc, c'est ça. Ce sont des éléments typiques à la région qui font en sorte que nos aînés sont très isolés.
Mm-hmm. Comment vous les avez repérés, Martine Beaupré, ces personnes aînées qui vous semblaient plus isolées et souffrir de solitude?
En fait, moi, au moment où on se parle, il y a quelques aînés que j'ai réussi à repérer par le biais de, bon, le service de popote roulante qui est déjà existant ici, que le Centre d'action bénévole offre déjà. Alors, je me suis adonnée à faire des livraisons de popote roulante et, bon, en allant porter le repas chaud à ces personnes-là, bien, j'ai eu l'occasion de me présenter, de parler du service. Il y en a un bon nombre d'entre eux qui, effectivement, vivaient seuls. Et puis, à partir de ce moment-là, je continue d'aller les voir à domicile. Il y a d'autres personnes à qui je parle de mon service de visite d'amitié, puis qui me disent, écoutez, moi, je suis très bien entourée. C'est pas vraiment une problématique chez moi, donc j'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, à eux, je leur dis, bien, écoutez, si jamais vous connaissez quelqu'un qui vit beaucoup de solitude, qui est très isolé, puis qui désire recevoir la visite d'une personne, eh bien, sachez que moi, j'offre ce service-là. J'ai aussi, par ailleurs, réussi à détecter des aînés qui sont isolés par le biais d'une activité. Nous, le Carrefour d'information aux aînés, à toutes les années, on organise des activités de sensibilisation et d'information. Et le 15 juin dernier, on a eu à le faire dans le cadre de la journée de sensibilisation à la maltraitance. Mm-hmm. Alors, de la maltraitance chez les aînés, bien sûr. Alors, moi, je suis carrément allée à domicile, je veux dire, les aînés qui vivent dans les OMH, les offices municipaux d'habitation, les HLM, les résidences privées. Je suis carrément allée à leur rencontre. C'est du porte-à-porte, carrément. Et on va les voir. On leur parle de cette journée-là, de l'activité, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils puissent pouvoir y participer. Et on fait une pierre deux coups. On se présente à eux, on leur parle du phénomène de l'isolement. Plusieurs d'entre eux se reconnaissent là-dedans. Alors là, on fait un contact, on se présente et puis on regarde pour voir des visites éventuelles par la suite.
Vous vous rendez, Martine, présentement chez 7 personnes âgées pour ces visites d'amitié. En passant, je trouve que c'est vraiment très mignon comme terme, visite d'amitié. Ce sont quoi les retombées directes que vous pouvez observer chez ces 7 personnes âgées?
Oh, il y en a plusieurs. Pour en nommer quelques-unes, il y a des personnes, qui, à part ma visite, ils voient personne. Mmh. Et puis, ils se meurent d'ennui, ils sont plus enclins à déprimer, à vivre beaucoup de stress. En allant les voir, ça leur fait beaucoup de bien à leur humeur, à leur santé psychologique. Il y en a d'autres, des fois, ça arrive, qui ont ils ont besoin d'aide mineure technique, la lecture de leur courrier. Il y en a, au niveau de la vision, c'est problématique. Téléphoner, faire des appels téléphoniques pour appeler des fournisseurs comme TELUS ou Hydro-Québec, mm-hmm. pour qui ça s'avère être très difficile. Alors moi, je leur porte des assistances dans leur quotidien de ce genre-là, éclaircir des facturations, aller prendre une marche, lire le courrier, tasser un meuble, des fois, qui est encombrant. Ces personnes âgées, isolées-là, les petites affaires de tous les jours, des fois, qui peuvent être encombrantes et qui sont pas d'agrément, mais ils vont pas appeler le CLSC pour aller leur donner ce petit coup de main-là. C'est pas les corporations d'aide à domicile qui se déplacent pour aller régler une télécommande qui est déréglée ou aller changer une ampoule. Alors, de par les contacts qui se créent via ce service-là, de visite d'amitié-là, on est d'adon. Moi, je me porte d'adon pour leur donner les petits coups de main, les petits agréments qui viennent alléger leur quotidien, tout simplement.
C'est une façon aussi de jeter un coup d'œil, à savoir, est-ce que la personne âgée se nourrit? Est-ce qu'elle se nourrit bien? Est-ce qu'il y a une prise de médication? Est-ce que cette prise de médication-là est bien faite, de veiller à la santé et au mieux-être là, de la personne?
C'est bien évident que quand il y a des besoins qui tombent dans un certain ordre au niveau de la santé, comme par hasard, la médication, si on s'aperçoit qu'au niveau de la santé, il y aurait peut-être lieu de faire des petits bilans de santé. C'est sûr que moi, j'ai aussi le rôle de faire les références requises vers le CLSC, vers l'hôpital. Mm-hmm. Voilà.
Vous veillez au grain, comme on dit, Martine Beaupré. Tout ça, ce service-là de proximité pour bien fonctionner a besoin de bénévoles. Vous formez des bénévoles pour ces visites d'amitié, Martine?
Oui, absolument. C'est sûr que, considérant notre territoire qui est très vaste, puis le bon nombre d'aînés qui peuplent notre territoire, je peux pas arriver à une personne seule à combler tous ces petits besoins-là. Mm-hmm. Donc, c'est super important que je m'entoure d'une belle équipe de bénévoles. Alors, on est dans le recrutement. Mm-hmm. On recrute les bénévoles, mais on a aussi à cœur de pouvoir bien outiller ces gens-là, ces bénévoles-là qui iront au domicile de ces personnes-là, des formations pour venir leur donner un bon petit coup de main, savoir qu'est-ce qui serait mieux de faire pour que tout le monde soit bien là-dedans en tant que bénévole et en tant que personne qui reçoit l'aide. Alors, on a des formations qui s'en viennent. Il y a des psychologues qui vont venir donner des formations sur le savoir écouter, mm-hmm. sur les bienfaits des visites d'amitié, sur les causes, les conséquences de l'isolement, le rôle du bénévole, quelles sont ses limites, quelles sont les forces à préconiser dans sa démarche, dans son rôle, etc.
1-418-763-7038 pour vous joindre, Martine Beaupré, si on a envie de s'investir et de s'engager comme bénévole auprès de ces personnes aînées afin de briser l'isolement. Je le rappelle, vous travaillez du côté du Centre d'action bénévole des Chic-Chocs. Vous êtes agent de coordination pour les réseaux de proximité aux aînés. Merci beaucoup, Martine Beaupré.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
De retour avec ce dernier segment de l'émission, c'est mon petit coup de cœur. Et aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle émission qui a lieu sur Télé-Québec. Ça a débuté la semaine dernière. Ça s'appelle « La classe ouvrière ». On y parle d'une ferme éco-responsable et pas n'importe quelle ferme. C'est une ferme apicole. Ça s'appelle Miel d'Anicette. On y suit un couple. Ce sont deux artisans de la terre, vraiment. On a les deux mains dans la terre dans cette émission-là. Ce couple-là est considéré comme des sommités dans le développement de la culture du miel au Québec. Ils s'appellent Anissa Desrochers et Anne Virginie Smith et on les qualifie rien de moins que de rockstars de l'apiculture au Québec et ce partout dans le monde. Ce sont des sommités. Leur spécialité, c'est l'élevage d'abeilles reines. C'est un art qui est précieux, de plus en plus rare. C'est très peu pratiqué ici au Canada. Anissa Desrochers élève des reines pour des apiculteurs partout dans le monde. Et ça revêt une grande, grande importance parce que ça témoigne de la fragilité des colonies d'abeilles ici au Québec, au Canada. On les suit à travers les saisons. Donc vraiment, des fois, c'est le printemps, l'automne, l'été. On voit aussi ce qui distingue selon les saisons la culture du miel. On les voit avec leurs employés, les rencontres qu'ils font, les rencontres avec de grands chefs là, d'ici. Ça, c'est très passionnant à travers aussi les recettes qu'ils font. Et il y a toute une prise de conscience sur l'état de santé actuel des abeilles, sur l'importance de consommer local, de s'approvisionner de façon intelligente aussi, sur la précarité des abeilles. Et précarité des abeilles amène à la précarité de l'homme, on le sait. Les abeilles, ils sont à la base de la biodiversité. Donc, c'est une belle prise de conscience et c'est un retour à la terre, comme je le disais, de voir des gens travailler sur une ferme. C'est dans un décor qui est magnifique. C'est les Hautes-Laurentides. Et peut-être que ça me touche particulièrement parce que c'est le village de mon enfance. Tout ça se passe à Ferme-Neuve, magnifique village où j'ai grandi. Classe ouvrière, donc, le lundi à 19h30. C'est 30 minutes. Vous allez voir, ça passe vite. Très divertissant, très touchant aussi et éclairant. Je pense que c'est le bon terme. Et c'est super accessible parce que vous pouvez également aller sur le site de Télé-Québec et les voir là, après, même quand l'émission est terminée. C'est ainsi que se termine aussi cette émission. C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Nous aussi, hein, c'est possible de nous écouter sur notre site canalm.fusevoix.com ou d'entrer en contact avec nous 1-800-361-0635 poste 220. On est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook. N'hésitez pas à vous manifester. Merci à l'équipe derrière cette émission. Jean-Sébastien Laliberté, derrière la console. Jean-Sébastien qui a aujourd'hui donné un petit peu de pep à cette émission avec des ponts musicaux un peu différents. Ça a fait du bien. Merci, JS. Christiane Campagna aux médias sociaux. C'est Anne-Laure Janson à la recherche et à la revue de presse. On est en rediffusion à 17h. Et c'est Marianne Paquette derrière ce micro qui vous salue. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye-bye.